Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlos de Laclos. Lettre 31. Le chevalier Danceny à Cécile Volanges. Oui, sans doute, nous serons heureux. Mon bonheur est bien sûr, puisque je suis aimée de vous. Le vôtre ne finira jamais, s'il doit durer autant que l'amour que vous m'avez inspiré. Quoi, vous m'aimez, vous ne craignez plus de m'assurer de votre amour? Plus vous me le dites, et plus vous êtes contente. Après avoir lu ce charmant « Je vous aime », écrit de votre main, j'ai entendu votre belle bouche m'en répéter l'aveu. J'ai vu se fixer sur moi ces yeux charmants qu'embellissait encore l'expression de la tendresse. J'ai reçu vos serments de vivre toujours pour moi. Ah, recevez le mien de consacrer ma vie entière à votre bonheur. Recevez-le, et soyez sûr que je ne trahirai pas. Quelle heureuse journée nous avons passée hier. Pourquoi Madame de Merteuil n'a-t-elle pas tous les jours des secrets à dire à votre maman? Pourquoi faut-il que l'idée de la contrainte qui nous attend viennent se mêler aux souvenirs délicieux qui m'occupent? Pourquoi ne puis-je sans cesse tenir cette jolie main qui m'a écrit « Je vous aime », la couvrir de baisers, et me venger ainsi du refus que vous m'avez fait d'une faveur plus grande? Dites-moi, ma Cécile, quand votre maman a été rentrée, quand nous avons été forcés par sa présence de n'avoir plus l'un pour l'autre que des regards indifférents, quand vous ne pouviez plus me consoler, par l'assurance de votre amour, du refus que vous faisiez de m'en donner des preuves, n'avez-vous donc senti aucun regret? Ne vous êtes-vous pas dit « Un baiser lui rendu plus heureux, et c'est moi qui lui ai ravi ce bonheur » Permettez-moi, mon aimable ami, qu'à la première occasion, vous serez moins sévère. À l'aide de cette promesse, je trouverai du courage pour supporter les contrariétés que les circonstances nous préparent, et les privations cruelles seront au moins adoucies par la certitude que vous en partagez le secret. Adieu, ma charmante Cécile, voici l'heure où je dois me rendre chez vous. Il me serait impossible de vous quitter si ce n'était pour aller vous revoir. Adieu, vous que j'aime tant, vous que j'aimerais toujours davantage. Lettre 32. Madame de Volanges à la présidente de Tourvel. Vous voulez donc, madame, que je croie à la vertu de Monsieur de Valmont? J'avoue que je ne puis m'y résoudre, et que j'aurai autant de peine à le juger honnête, d'après le seul fait que vous me racontez, qu'à croire vicieux un homme de bien reconnu, dont j'apprendrais une faute. L'humanité n'est parfaite dans aucun genre, pas plus dans le mal que dans le bien. Le scélérat a ses vertus, comme l'honnête homme a ses faiblesses. Cette vérité me paraît d'autant plus nécessaire à croire que c'est d'elle que dérive la nécessité de l'indulgence pour les méchants comme pour les bons, et qu'elle préserve ceux-ci de l'orgueil et sauve les autres du découragement. Vous trouverez sans doute que je pratique bien mal dans ce moment cette indulgence que je prêche. Mais je ne vois plus en elle qu'une faiblesse dangereuse quand elle nous mène à traiter de même le vicieux et l'homme de bien. Je ne me permettrai point de scruter les motifs de l'action de M. de Valmont. Je veux croire qu'ils sont louables comme elle. Mais en a-t-il moins passé sa vie à porter dans les familles le trouble, le déshonneur et le scandale? Écoutez, si vous voulez, la voix du malheureux qui l'a secouru. Mais qu'elle ne vous empêche pas d'entendre les cris de 100 victimes qu'il a immolées. Quand il ne serait, comme vous le dites, qu'un exemple du danger des liaisons, en serait-il moins lui-même une liaison dangereuse? Vous le supposez susceptible d'un retour heureux? Allons plus loin. Supposons ce miracle arrivé. Ne resterait-il pas contre lui l'opinion publique? Et ne suffit-elle pas pour régler votre conduite? Dieu seul peut absoudre au moment du repentir. Il lit dans les cœurs. Mais les hommes ne peuvent juger les pensées que par les actions. Et nul d'entre eux, après avoir perdu l'estime des autres, n'a droit de se plaindre de la méfiance nécessaire qui rend cette perte si difficile à réparer. Songez surtout, ma jeune amie, que quelquefois il suffit, pour perdre cette estime, d'avoir l'air d'y attacher trop peu de prix. Et ne taxez pas cette vérité d'injustice. Car, outre qu'on est fondé à croire qu'on ne renonce pas à ce bien précieux quand on a droit d'y prétendre, celui-là est en effet plus près de mal faire, qui n'est plus contenu par ce frein puissant. Tel serait cependant l'aspect sous lequel vous montrerez une liaison intime avec M. de Valmont, quelque innocente qu'elle pût être. Effrayée de la chaleur avec laquelle vous le défendez, je me hâte de prévenir les objections que je prévois. Vous me citerez Madame de Merteuil, à qui on a pardonné cette liaison. Vous me demanderez pourquoi je le reçois chez moi. Vous me direz que loin d'être rejeté par les gens honnêtes, il est admis, recherché même, dans ce qu'on appelle la bonne compagnie. Je peux, je crois, répondre à tout. D'abord, Madame de Merteuil, en effet très estimable, n'a peut-être d'autre défaut que trop de confiance en ses forces. C'est un guide adroit qui se plaît à conduire un char entre les rochers et les précipices, et que le succès seul justifie. Il est juste de la louer, il serait imprudent de la suivre. Elle-même en convient et s'en accuse. À mesure qu'elle a vu davantage, ses principes sont devenus plus sévères, et je ne crains pas de vous assurer qu'elle penserait comme moi. Quant à ce qui me regarde, je ne me justifierai pas plus que les autres. Sans doute, je reçois M. de Valmont, et il est reçu partout. C'est une inconséquence de plus à ajouter à 1000 autres qui gouvernent la société. Vous savez, comme moi, qu'on passe sa vie à les remarquer, à s'en plaindre et à s'y livrer. Monsieur de Valmont, avec un beau nom, une grande fortune, beaucoup de qualités aimables, a reconnu de bonne heure que pour avoir l'empire dans la société, il suffisait de manier, avec une égale adresse, la louange et le ridicule. Nul ne possède comme lui ce double talent. Il séduit avec l'un et se fait craindre avec l'autre. On ne l'estime pas, mais on le flatte. Telle est son existence au milieu d'un monde qui, plus prudent que courageux, aime mieux le ménager que le combattre. Mais ni Madame de Merteuil elle-même, ni aucune autre femme, n'oserait sans doute aller s'enfermer à la campagne, presque en tête-à-tête, avec un tel homme. Il était réservé à la plus sage, à la plus modeste d'entre elles, de donner l'exemple de cette inconséquence. Pardonnez-moi ce mot, il échappe à l'amitié. Ma belle amie, votre honnêteté même vous trahit, par la sécurité qu'elle vous inspire. Songez donc que vous aurez pour juge, d'une part, des gens frivoles, qui ne croiront pas à une vertu dont ils ne trouvent pas le modèle chez eux. Et de l'autre, des méchants qui feindront de n'y pas croire, pour vous punir de l'avoir eu. Considérez que vous faites, dans ce moment, ce que quelques hommes n'oseraient pas risquer. En effet, parmi les jeunes gens dont M. de Valmont ne s'est que trop rendu l'oracle, je vois les plus sages craindre de paraître liés trop intimement avec lui. Et vous, vous ne le craignez pas. Revenez, revenez, je vous en conjure. Si mes raisons ne suffisent pas pour vous persuader, cédez à mon amitié. C'est elle qui me fait renouveler mes instances. C'est à elle à les justifier. Vous la trouvez sévère, et je désire qu'elle soit inutile. Mais j'aime mieux que vous ayez à vous plaindre de sa sollicitude que de sa négligence. They make way, they unite, they know the Lettre 33. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Dès que vous craignez de réussir, mon cher vicomte, dès que votre projet est de fournir des armes contre vous, et que vous désirez moins de vaincre que de combattre, je n'ai plus rien à dire. Votre conduite est un chef-d'œuvre de prudence. Elle en serait un de sottise dans la supposition contraire. Et pour vous parler vrai, je crains que vous ne vous fassiez illusion. Ce que je vous reproche n'est pas de n'avoir point profité du moment. D'une part, je ne vois pas clairement qu'il fût venu. De l'autre, je sais assez, quoi qu'on en dise, qu'une occasion manquée se retrouve, tandis qu'on ne revient jamais d'une démarche précipitée. Mais la véritable école est de vous être laissé aller à écrire. Je vous défie à présent de prévoir où ceci peut vous mener. Par hasard, espérez-vous prouver à cette femme qu'elle doit se rendre ? Il me semble que ce ne peut être là qu'une vérité de sentiment et non de démonstration. Et que pour la faire recevoir, il s'agit d'attendrir et non de raisonner. Mais à quoi vous servirait d'attendrir par lettre, puisque vous ne seriez pas là pour en profiter ? Quand vos belles phrases produiraient l'ivresse de l'amour, vous flattez-vous qu'elles soient assez longues pour que la réflexion n'ait pas le temps d'en empêcher l'aveu. Songez donc à celui qu'il faut pour écrire une lettre, à celui qui se passe avant qu'on la remette. Et voyez si surtout une femme à principe comme votre dévote peut vouloir si longtemps ce qu'elle tâche de ne vouloir jamais. Cette marche peut réussir avec des enfants qui, quand ils écrivent « je vous aime », ne savent pas qu'ils disent « je me rends ». Mais la vertu raisonneuse de Madame de Tourvel me paraît fort bien connaître la valeur des termes. Aussi, malgré l'avantage que vous aviez pris sur elle dans votre conversation, elle vous bat dans sa lettre. Et puis, savez-vous ce qui arrive ? Par cela seul qu'on dispute, on ne veut pas céder. À force de chercher de bonnes raisons, on en trouve, on les dit, et après on y tient, non pas tant parce qu'elles sont bonnes que pour ne pas se démentir. De plus, une remarque que je m'étonne que vous n'ayez pas faite, c'est qu'il n'y a rien de si difficile en amour que d'écrire ce qu'on ne sent pas. Je dis écrire d'une façon vraisemblable. Ce n'est pas qu'on se serve des mêmes mots, mais on ne les arrange pas de même, ou plutôt on les arrange, et cela suffit. Relisez votre lettre. Il y règne un ordre qui vous décèle à chaque phrase. Je veux croire que votre présidente est assez peu formée pour ne s'en pas apercevoir. Mais qu'importe. L'effet n'en est pas moins marqué. C'est le défaut des romans. L'auteur se bat les flancs pour s'échauffer et le lecteur reste froid. Héloïse est le seul qu'on en puisse accepter. Et malgré le talent de l'auteur, cette observation m'a toujours fait croire que le fond en était vrai. Il n'en est pas de même en parlant. L'habitude de travailler son organe y donne de la sensibilité. La facilité des larmes y ajoute encore. L'expression du désir se confond dans les yeux avec celle de la tendresse. Enfin, le discours moins suivi amène plus aisément cet air de trouble et de désordre qui est la véritable éloquence de l'amour. Et surtout, la présence de l'objet aimé empêche la réflexion et nous fait désirer d'être vaincus. Croyez-moi, vicomte, on vous demande de ne plus écrire. Profitez-en pour réparer votre faute et attendez l'occasion de parler. Savez-vous que cette femme a plus de force que je ne croyais ? Sa défense est bonne. Et sans la longueur de sa lettre et le prétexte qu'elle vous donne pour rentrer en matière dans sa phrase de reconnaissance, elle ne se serait pas du tout trahie. Ce qui me paraît encore devoir vous rassurer sur le succès, c'est qu'elle use trop de force à la fois. Je prévois qu'elle les épuisera pour la défense du mot et qu'il ne lui en restera plus pour celle de la chose. Je vous renvoie vos deux lettres, et si vous êtes prudent, ce seront les dernières jusqu'après le remoment. S'il était moins tard, je vous parlerai de la petite Volange qui avance assez vite et dont je suis fort contente. Je crois que j'aurai fini avant vous, et vous devez en être bien heureux. Adieu pour aujourd'hui. I am not Jesus, though I have the same initials. I am the man who stays home and does the dishes. And how was your day? Is that woman still trying to do your head in? A man told me to beware of 33, he said. It was not an easy time for me. I'd like to make this water wine.
impossible. I've got to get these dishes dry. I'll read a story if it helps you sleep at night. I got some matches if you ever need a light. Just a man, but I'm doing what I can to help you. I'd like to make this water wine, but it's impossible. I've got to get these dishes. Is where we
Lettre 34. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Vous parlez à merveille, ma belle amie, mais pourquoi vous tant fatiguer à prouver ce que personne n'ignore? Pour aller vite en amour, il vaut mieux parler qu'écrire. Voilà, je crois, toute votre lettre. Eh mais, ce sont les plus simples éléments de l'art de séduire. Je remarquerai seulement que vous ne faites qu'une exception à ce principe, et qu'il y en a deux. Aux enfants qui suivent cette marche par timidité et se livrent par ignorance, il faut joindre les femmes beaux esprits qui s'y laissent engager par amour propre et que la vanité conduit dans le piège. Par exemple, je suis bien sûre que la comtesse de B, qui répondit sans difficulté à ma première lettre, n'avait pas alors plus d'amour pour moi que moi pour elle, et qu'elle ne vit que l'occasion de traiter un sujet qui devait lui faire honneur. Quoi qu'il en soit, un avocat vous dirait que le principe ne s'applique pas à la question. En effet, vous supposez que j'ai le choix entre écrire et parler, ce qui n'est pas. Depuis l'affaire du 19, mon inhumaine, qui se tient sur la défensive, a mis à éviter les rencontres une adresse qui a déconcerté la mienne. C'est au point que si cela continue, elle me forcera à m'occuper sérieusement des moyens de reprendre cet avantage, car assurément, je ne veux être vaincue par elle en aucun genre. Mes lettres même sont le sujet d'une petite guerre. Non contente de ne pas y répondre, elle refuse de les recevoir. Il faut pour chacune une ruse nouvelle, et qui ne réussit pas toujours. Vous vous rappelez par quel moyen simple j'avais remis la première. La seconde n'offrit pas plus de difficultés. Elle m'avait demandé de lui rendre sa lettre. Je lui donne la mienne en place, sans qu'elle eût le moindre soupçon. Mais soit dépit d'avoir été attrapée, soit caprice, ou enfin soit vertu, car elle me forcera d'y croire, elle refusa obstinément la troisième. J'espère pourtant que l'embarras où a pensé la mettre la suite de ce refus la corrigera pour l'avenir. Je ne suis pas très étonnée qu'elle ne voulût pas recevoir cette lettre que je lui offrais tout simplement. C'eût été déjà accordé quelque chose, et je m'attends à une plus longue défense. Après cette tentative, qui n'était qu'un essai fait en passant, je mis une enveloppe à ma lettre. Et prenant le moment de la toilette, où Madame de Rosemonde et la femme de chambre étaient présentes, je la lui envoyai par mon chasseur, avec ordre de lui dire que c'était le papier qu'elle m'avait demandé. J'avais bien deviné qu'elle craindrait l'explication scandaleuse que nécessiterait un refus. En effet, elle prit la lettre. Et mon ambassadeur, qui avait ordre d'observer sa figure, et qui ne voit pas mal, n'aperçut qu'une légère rougeur et plus d'embarras que de colère. Je me félicitais donc, bien sûr, ou qu'elle garderait cette lettre, ou que si elle voulait me la rendre, il faudrait qu'elle se trouvât seule avec moi, ce qui me donnerait une occasion de lui parler. Environ une heure après, un de ces gens entre dans ma chambre et me remet, de la part de sa maîtresse, un paquet d'une autre forme que le mien, et sur l'enveloppe duquel je reconnais l'écriture tant désirée. J'ouvre avec précipitation. C'était ma lettre elle-même, non décachetée, et pliée seulement en deux. Je soupçonne que la crainte que je ne fusse moins scrupuleux qu'elle sur le scandale lui a fait employer cette ruse diabolique. Vous me connaissez. Je n'ai pas besoin de vous peindre ma fureur. Il fallut pourtant reprendre son sang-froid et chercher de nouveaux moyens. Voici le seul que je trouvais. On va d'ici, tous les matins, chercher des lettres à la poste, qui est à environ 3/4 de lieue. On se sert, pour cet objet, d'une boîte couverte à peu près comme un tronc, dont le maître de la poste a une clé et Madame de Rosemonde l'autre. Chacun y met ses lettres dans la journée, quand bon lui semble. On les porte le soir à la poste, et le matin, on va chercher celles qui sont arrivées. Tous les gens, étrangers ou autres, font ce service également. Ce n'était pas le tour de mon domestique, mais il se chargea d'y aller, sous le prétexte qu'il avait affaire de ce côté. Cependant, j'écrivis ma lettre. Je déguisai mon écriture pour l'adresse et je contrefis assez bien, sur l'enveloppe, le timbre de Dijon. Je choisis cette ville parce que je trouvais plus gai, puisque je demandais les mêmes droits que le mari, d'écrire aussi du même lieu, et aussi parce que ma belle avait parlé toute la journée du désir qu'elle avait de recevoir des lettres de Dijon. Il me parut juste de lui procurer ce plaisir. Ces précautions une fois prises, il était facile de faire joindre cette lettre aux autres. Je gagnais encore à cet expédient d'être témoin de la réception, car l'usage est ici de se rassembler pour déjeuner et d'attendre l'arrivée des lettres avant de se séparer. Enfin, elles arrivèrent. Madame de Rosemonde ouvrit la boîte. « De Dijon, » dit-elle en donnant la lettre à Madame de Tourvel. « Ce n'est pas l'écriture de mon mari, » reprit celle-ci d'une voix inquiète en rompant le cachet avec vivacité. Le premier coup d'œil l'instruisit. Et il suffit une telle révolution sur sa figure que Madame de Rosemonde s'en aperçut et lui dit « Qu'avez-vous ?» Je m'approchai aussi en disant « Cette lettre est donc bien terrible ?» La timide dévote n'osait lever les yeux, ne disait mot, et pour sauver son embarras, feignait de parcourir l'épître qu'elle n'était guère en état de lire. Je jouissais de son trouble et n'étais pas fâchée de la pousser un peu. « Votre air plus tranquille, » ajoutai-je, fait espérer que cette lettre vous a causé plus d'étonnement que de douleur. La colère alors l'inspira mieux que n'eût pu faire la prudence. « Elle contient, répondit-elle, des choses qui m'offensent et que je suis étonnée qu'on ait osé m'écrire. »« Et qui donc ?» interrompit Madame de Rosemonde. « Elle n'est pas signée, » répondit la belle courroucée. « Mais la lettre et son auteur m'inspirent un égal mépris. On m'obligera de ne plus m'en parler. » En disant ces mots, elle déchira l'audacieuse missive, en mit les morceaux dans sa poche, se leva et sortit. Malgré cette colère, elle n'en a pas moins eu ma lettre, et je m'en remets bien à sa curiosité, du soin de l'avoir lue en entier. Le détail de la journée me mènerait trop loin. Je joins à ce récit le brouillon de mes deux lettres. Vous serez aussi instruite que moi. Si vous voulez être au courant de ma correspondance, il faut vous accoutumer à déchiffrer mes minutes, car pour rien au monde, je ne dévorerai l'ennui de les recopier. Adieu, ma belle amie. Help the aged. One time they were just like you. Drinking, smoking, sex and sniffing glue. Help the aged. Don't just put them in a home. Can't have much fun when they're all on their own. Give a hand if you can. Try to help them to unwind. Give them hope and give them comfort. Cast the to forget that nothing.
You might need someone who can pull you through. And if you look very hard behind those lines upon their face, you may see where you are heading. And it's such a